Nous sommes le jeudi 4 septembre. Il est 21h sur Radio Canus en 2.2. Bienvenue dans le nerf de la Gabe. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque jour, ou presque, chaque jour, chaque semaine, oulala, si on faisait une quotidienne, je pourrais plus. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actualité sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Comment vas-tu ?
Ça va, écoute. Et toi ?
Eh ben, écoute, ça va plutôt bien. Romain, qui, quand il ne réalise pas cette émission, stream très régulièrement sur Twitch, sur sa chaîne Ruvon _. Et notamment le mercredi à 13h dans l'émission À vos souhaits, où il présente les nouveaux titres annoncés sur PC en général et sur Steam en particulier.
Tout à fait.
Et aussi, quand il ne fait pas ça, il finit d'excellents jeux de Wadjet High Game.
J'ai mis du temps, mais je l'ai fini, effectivement. Unavowed.
Et il va attaquer un autre jeu, alors cette fois-ci édité par Wadjet High Game.
C'est ça.
Et qui est encore plus excellent, parce que Excavation of Hobbs Barrow, il est vraiment, vraiment bien. Il sera plus court, néanmoins.
Et c'est un jeu du studio Cloak & Dagger,
oui,
que j'aime beaucoup également, qui avait fait des choses avant de travailler avec Wadjet High. Et du coup, très très content, effectivement, de les voir bosser ensemble.
Bettina, bonsoir.
Ouais. Alors, est-ce que tu es courant qu'elle n'est pas là ?
C'est vrai, effectivement.
Quelqu'un t'a prévenu ?
Mais non, personne m'a prévenu.
Vraiment, hein, les gens font pas d'efforts.
Non, voilà. Non, Bettina qui n'est pas là cette semaine, vu qu'elle est en train de récupérer des infos pour vous en donner la semaine prochaine, clairement.
Exactement.
Et aussi, ben, tout simplement, passer du temps avec des gens qu'elle préfère à nous, et je peux pas lui en vouloir. pour compenser le fait que Bettina soit pas là, je vais m'inspirer de ses grands talents d'organisatrice pour vous parler d'un événement qui s'appelle Sex Nerd et Truck'n'Roll.
D'accord, on en est là, ok.
Oui, on en est là.
Bien.
Sex Nerd et Truck'n'Roll, qui est un quiz et un blind test qui aura lieu au Troquet Taquin, qui est rue Fernand Rey. Qui est un bar où on officie à partir donc le 9 septembre à 20h, où donc si vous voulez un quiz qui, comme son nom l'indique, parlera de trucs de nerd, de rock'n'roll, peut-être de sexe si vous êtes sage, voilà, et venez nombreux, on sera bien, vous pourrez en tout cas déjà réserver sur les réseaux sociaux du Troquet Taquin, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Comme chaque semaine, on remercie le collectif Presse F1 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game et Radio Canu pour l'accès au studio. De quoi qu'on parle cette semaine, je crois que tu voulais parler d'un bundle pour commencer, Romain.
Oui, je voulais parler d'une initiative qui a été, bah, c'est pas la première et ce sera malheureusement, je pense, pas la dernière, du monde du jeu vidéo de façon un petit peu globale, pour récolter des fonds. On parle vraiment là d'une récolte de fonds à destination de la Palestine. C'est le Play for Peace Games for Palestine 2025 Charity Bundle, évidemment disponible sur itch.io. Si vous cherchez effectivement Games for Palestine 2025, je pense que ça suffira pour trouver le bundle. Il est disponible depuis mardi à 8$, donc un poil plus que 8, que 7€.
Un petit peu.
Je crois que c'est à peu près ça.
7 et quelques, oui.
Ouais, 7 et quelques. Techniquement,
on peut mettre plus, hein, si on veut.
Oui, en plus, ça, on peut donner effectivement plus. C'est des fonds qui vont revenir à l'UNRWA USA, qui supporte directement l'aide humanitaire à Gaza, spécifiquement. Et donc, en fait, en échange, effectivement, de votre participation, c'est un certain nombre de créateurs de jeux, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des jeux de rôle, des jeux de plateau, enfin, même si c'est un peu plus rare sous le format de Itch.
Oui, mais des jeux, mais, au moins des sets de règles papier pour mettre en place du jeu de rôle, soit sur table, soit en plateau.
Exactement. Et on a aussi un petit peu de certains magazines, on a des musiques, on a des albums de musique. Un certain nombre, donc, voilà, de créateurs globalement impliqués, je dirais, sur le sujet, qui ont décidé de faire partie de ce bundle, donc de proposer leur création contre des, donc, les 7 et quelques euros demandés, les 8 dollars demandés, pour la totalité de 382 produits, que ce soit donc des jeux vidéo, ce qu'on a dit, de la musique, des jeux de rôle. Alors, dans les 382, si on peut refaire ressortir quelque chose, je pense que on peut faire ressortir Coffee Talk, qui est un jeu dont tu pourrais nous parler pendant environ toute la durée de l'émission, si on t'en laissait la possibilité. C'est moi qui ai le doigt sur ton micro.
D'accord, je me contenterai de dire que même si vous êtes des gens extrêmement cyniques et la cause ne vous parle pas, ce qui me paraît étonnant, mais ça c'est vous que ça regarde, prenez-le juste pour Coffee Talk.
Par exemple, effectivement, rien que pour les 7 et quelques euros demandés, ça les mérite déjà, mais on peut rajouter effectivement, je sais pas moi, il y a Lucifer Within Us qui est pas si mal, Moon Hunters, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, on a quelques jeux comme ça, Bonfire Pix, on a des jeux de l'ami Paul avec son Abyss Crew, et puis on a également 1 Million Voices, oui. for Ceasefire, je crois que c'est le nom de son projet. Donc des jeux effectivement de Paul Graland-Mongrain, donc et qu'on avait reçu ici pour en tant que sa qualité d'organisateur, en tout cas de membre de l'organisation
de
Game Jam, des Scientific Game Jam, et notamment des Game Jam également de l'histoire, qui permettent effectivement à des gens de créer des jeux vidéo autour de sujets scientifiques, et plus précisément dans le cas des Game Jam de l'histoire, évidemment de l'histoire, et dont les gagnants sont récompensés au rendez-vous de l'histoire de Blois, avec des vrais, entre guillemets, historiens, enfin vraiment des conférences, des choses un peu plus... enfin, qui sont un tout petit peu plus construites autour de d'œuvres, de livres, de conférences, parfois même d'expositions, etc. Donc, c'est très intéressant que le jeu vidéo ait pu rentrer, entre guillemets, de cette façon-là, en fait, pour montrer qu'on peut proposer, en fait, des sujets historiques à travers l'interactivité que permet le jeu vidéo. Mmh. Et on avait profité de ça, notamment des jeux de Paul, pour le faire avec l'ami H-Crew en stream il y a 10 jours maintenant.
Oui, sur le jeu, sur l'affaire Dreyfus.
Alors, sur différents jeux, effectivement, notamment l'affaire Dreyfus, il y avait...
Le jeu sur Saint-Étienne et...
oui, l'affaire de la sextape de Saint-Étienne.
La sextape de Saint-Étienne, effectivement.
Qui est une affaire qui va normalement arriver à on va dire, certaines décisions de justice doivent être prises courant septembre-octobre, là,
oui.
Sur les différents élus de Saint-Étienne concernés par cette affaire. Et également sur, globalement, l'ascension de Viktor Orban au pouvoir en Hongrie, et son contrôle, et en tout cas son implication auprès de ses proches dans l'empire médiatique globalement, qui est le plus visible et le plus présent dans les médias en Hongrie. Donc voilà, c'était des choses très intéressantes. Et donc voilà, ce bundle, pour revenir un petit peu sur le sujet de départ, il est disponible depuis mardi. Je ne sais plus combien de temps il est prévu d'être disponible. En tout cas, l'objectif, pendant encore 18 jours. Donc voilà, le projet, c'était 3 semaines. Donc l'objectif, c'est de récolter 200 000 dollars. Deux jours après le lancement, on est à 36 000 dollars.
Très bien.
On est sur la bonne voie. Mais je vous invite effectivement à ne pas rater cette opportunité de soutenir le projet, en tout cas ce que propose, que ce soit en termes de jeu ou en termes d'objectifs d'objectifs pour ces fonds, par ce bundle Play for Peace Games for Palestine 2025 Charity Bundle.
Très bien, sachant que ça n'a pas été Itch.io, c'est pas la première fois que sur Itch.io on a ce genre de bundle. Il y en a déjà eu, notamment pour lever des fonds pour soutenir les populations ukrainiennes. Mm-hmm. Il y a eu le lever des fonds pour soutenir les gens lors du mouvement Black Lives Matter,
ouais.
Entre autres.
Tout à fait. C'est une plateforme qui est relativement régulièrement utilisée dans ce but-là. Il y avait également eu, il y a quelques mois, un bundle du même genre pour les victimes des incendies de Los Angeles.
Oui. Oui, oui, donc c'est... Voilà,
c'est le dernier que j'avais en tête en date.
Oui, oui, c'est... Enfin, faudra qu'on reparle globalement de tout ce qui est jeux vidéo et œuvres de charité de manière générale.
Oui.
Vu qu'il n'y a pas que sur Itch.io, il y a aussi pas mal de choses qui se font notamment sur Twitch, sachant que
on est le week-end du Z Event,
donc ça paraissait plutôt approprié aussi.
Il y a des choses à dire sur le Z Event, mais effectivement.
Voilà. Merci en tout cas de rappeler l'existence de ce bundle et également on vous encourage à y participer. Moi j'avais envie de parler de la Switch 2.
D'accord.
Première chose, c'est Romain, est-ce que tu as 500 balles à me passer ?
Alors toujours pas. Ouais. Ça fait depuis juin que tu réclames.
Oui.
Tous les jours ou plusieurs fois par jour, ça dépend des jours, ça dépend comment t'es luné, ça dépend si tu t'es couché tard ou pas, enfin bref.
Mais je la veux.
Oui, mais écoute, c'est quand même, est-ce que c'est de ma faute? Bon, moi j'ai même pas la 1.
Tu
veux même pas me donner la 1 en échange, enfin, je veux dire, tu fais même pas d'effort.
Tu vends un de tes chats et puis c'est bon, quoi.
Ben, j'essaye d'en avoir suffisamment pour qu'ils finissent par rapporter quelque chose. On le sait que les chats, ça rapporte beaucoup d'argent sur Internet. J'essaie d'en avoir le plus possible pour filmer une sitcom. Et que je vais doubler avec de l'IA, à mon avis. Je pense que ce sera le plus sympa. Et effectivement, les aventures de mes chats pour peut-être te payer ta Switch 2.
Les aventures de petits pois et petites merdes.
Ouais, exactement. Ouais, très bien. Et sois poli avec mes chats.
Effectivement, donc la Switch 2 qui est sortie depuis cette semaine.
Non, depuis le 5 juin. C'est ça, hein, le 5 juin.
11 semaines, pardon.
J'avais le 5 juin en tête au niveau de la date.
Je calcule. 11 ou 12 semaines à peu près.
C'est à peu près le temps de tes vacances. Souviens-toi.
Écoute,
bah non, mais quand c'est vrai, c'est drôle parce que c'est vrai.
Je ne réagis pas à la jalousie.
Bien. Tu valides donc. Donc la Switch 2.
La Switch 2, en fait, qui est désormais aujourd'hui, même après donc 12 semaines, après donc la période de l'été. La console la plus rapidement vendue de l'histoire.
Ok, même plus que les précédentes consoles Nintendo, mais
en
pas que.
Voilà, c'est-à-dire que en tout cas, en tout cas sur les 7 premières semaines, parce que les chiffres sur lesquels je me base, ce sont les chiffres donnés par Nintendo eux-mêmes, vu que ils ont fait un rapport du premier trimestre, en gros
du groupe
du premier trimestre du groupe par rapport à l'année fiscale. On vous parle souvent d'année fiscale et c'est c'est parce que les éditeurs eux-mêmes et les constructeurs eux-mêmes ne parlent que d'année fiscale. Voilà.
Et la plupart du temps, effectivement, elle commence l'année fiscale le 1er avril parce que se termine le 31 mars. Ce qui est une généralité mais pas une règle immuable. Certains le gèrent autrement.
C'est ça. Et donc, en fait, ils disaient qu'ils en ont vendu plus de 6 millions d'exemplaires en quelques semaines, et à titre de comparaison, sur une durée équivalente, Sony n'avait pas pu vendre plus de 4,5 millions de sa PS5,
d'accord,
ni de sa PS6, et
la PS quoi ?
PS4, d'accord.
Oui,
d'accord.
J'ai eu peur une seconde. J'ai dormi si longtemps.
Je me suis dit, vu qu'il connaît rien à la console, je vais pouvoir l'embrouiller.
Il va me faire avoir. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Après, pour la PS5, il y avait des raisons.
Oui.
Il y avait des raisons de disponibilité.
Sur la PS4, il y en avait moins, par contre.
Non,
parce que
non,
c'était une console qui était très attendue, pour le coup.
Elle était très attendue, mais il y avait une concurrence qui n'était pas dans le même état qu'à la sortie de la PS5.
Vu qu'il y avait la Xbox à l'époque.
Ouais, voilà, c'était tout est question de contexte,
évidemment.
Donc tout est à comparer avec ces différences de contexte. Mais malgré tout, dans le cas de la Switch, on est.
Et en tout cas, par exemple, pour la Switch, à semaine équivalente, on était à 2 millions de moins. Donc on était à 4 millions aussi.
D'accord.
Donc, en fait, si on s'en tient à cette période de l'année fiscale, si on fait un peu la répartition, le Nintendo a écoulé 2 millions de consoles en Amérique, 1,27 millions au Japon,
okay.
1,34 en Europe et le reste ailleurs dans le monde.
D'accord, Amérique du Sud, Moyen-Orient, voilà. Asie du Sud-Est. Fin...
Donc, clairement, ouais. En fait, si en tout il y en a 6 et qu'il y en a déjà, il y en a quasiment.
4,5.
Il y en a 4,5 juste sur les territoires, américains, japonais, européens. Voilà. Mm-hmm. Bon, on sait là où sont principalement leurs marchés. Donc, tout va bien pour Nintendo, hein, ça imprime de l'argent comme prévu. pas de soucis.
Ils n'ont pas eu de problème de disponibilité.
Ah non, non.
À la sortie de la Switch 2, en tout cas. Ça a été d'ailleurs une des raisons envisagées pour le report de la sortie. Qu'il y ait justement qu'ils aient le stock suffisant pour encaisser les demandes à la sortie.
Même si,
ça a été une discussion en tout cas.
Même si pour l'instant, ils disent que l'offre est toujours supérieure à la demande, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en pénurie.
Ok.
Voilà, donc ils avaient prévu en avance et beaucoup de gens se demandaient pourquoi la Switch 2 est sortie aussi tard alors qu'on en attendait depuis assez longtemps. Je pense que c'est parce qu'ils avaient voulu déjà avoir un stock très conséquent pour pas avoir les problèmes d'approvisionnement qu'avait eu la PS5 à sa sortie.
Et les comportements un peu, j'allais pas dire déviants, mais.
De drifters, ouais.
Ouais, voilà, de gens qui achètent en masse et qui revendent sous le manteau parce qu'il n'y en a plus de disponibles dans les stores officiels.
C'est ça. Après voilà, un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que néanmoins, si on compare les chiffres exactement à ceux de l'année dernière, donc sur l'exercice 2024-2025, donc en gros entre avril et juillet 2024, les chiffres sont supérieurs sur le chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que tout simplement, et cette fois-ci, ils vendent des consoles qui coûtent cher, parce que les consoles, elles coûtent 500 balles, elles coûtent 500 balles, avec Mario Kart, elles coûtent encore plus cher, donc en gros, forcément, tu vas avoir un chiffre d'affaires qui est largement supérieur. Par contre, en fait, si tu regardes la marge est légèrement inférieure. Pourquoi ? Parce que sur la perte de l'année dernière, la Switch en fait leur coûtait plus rien tous les coûts étaient amortis à fond, ça leur coûtait rien à produire et ils vendaient que des jeux, et ce qui coûte rien non plus à produire, en tout cas d'un point de vue matériel, physique, point de vue physique, ça leur coûte pas grand chose, et donc c'était que des coûts d'infrastructure entre guillemets, et ce qui fait qu'ils ont fait une plus grosse marge l'année dernière. Là, d'accord, le truc c'est que la console coûte cher, mais la console coûte cher aussi à produire, ce qui fait que t'as une marge qui est inférieure. Mais on est, en tout cas, selon les chiffres et les déclarations de Nintendo, on est sur la route qui est prévue. Donc, en gros, tout va bien. Donc, pourquoi je parle de Nintendo ? Parce qu'il y a un truc qui m'a interpellé, notamment sur des choses qui se sont dites lors de la Gamescom. Peut-être que vous avez remarqué, que ce soit lors du Geoff Show ou après, il y a quand même relativement peu d'exclusivité Switch 2.
Oui, effectivement. On a vu un certain nombre de jeux, en tout cas, se déclarer être disponibles ou qui seront disponibles sur Switch et Switch 2.
Oui, mais
pas tant seulement sur Switch 2, effectivement.
Voilà. C'est ça. Ce qui fait que les gens se sont posés la question comment ça se faisait, parce qu'il y avait que les jeux entre guillemets faits par Nintendo. Donc, Donkey Kong, je crois que c'est Bonanza, si je dis pas de bêtises.
Le Mario Kart,
le jeu Kirby qui a été annoncé, etc. Mm-hmm. Et que, par contre, pour des jeux tiers qui ne sont pas faits par Nintendo, il n'y avait pas grand-chose qui était annoncé. Il y en a, mais vraiment pas beaucoup. Et c'est pas étonnant après seulement 3 mois d'existence, mais on s'attendait à une offensive plus forte. On se souvient que quand la PS5 était sortie, même s'il y avait peu d'exclusivité, mais il y avait quand même beaucoup de gens, beaucoup d'éditeurs qui déclaraient on va faire un truc pour la PS5, on a les dev kits et on est en train de préparer des choses pour que ça tourne sur PS5.
Ok.
Là, en fait, on remarque quand même que la plupart des studios bossent sur des versions Switch qui seront donc compatibles avec la Switch 2 grâce au système de rétrocompatibilité lié à la Switch 2. Il se trouve qu'il y a un dénommé John Lindman, qui est membre de Digital Foundry, qui a rencontré beaucoup de studios pendant son passage à la Gamescom et qui déclare que il y a un manque de partage de kits de développement pour la Switch 2 et que Nintendo ne distribuerait pas à tout le monde ses kits de développement.
D'accord.
Forcément, ce qui complique la tâche des studios pour développer des versions Switch 2, sachant que, pour faire simple, c'est quoi un dev kit ? Un dev kit, c'est un ensemble logiciel et matériel qui permet en fait de tester et développer des jeux et pour être sûr qu'ils soient adaptés à la machine en question. Et d'accord, que si t'as pas la machine, tu peux te baser sur les configurations matérielles et sur ce que tu sais de la machine, mais t'es pas sûr que ça fonctionne et c'est vu les risques souvent dangereux d'y aller sans dev kit. C'est possible, mais c'est plutôt dangereux.
Ouais, sans avoir vraiment une... Bah, déjà être sûr que tu vas exploiter au maximum les capacités de la machine et que tu vas pas non plus lui demander trop et rendre le jeu désagréable à jouer parce que trop lent, saccadé, ce que tu veux, pour ceux qui veulent jouer dessus. Ouais.
C'est ça. Et donc, en fait, le truc, c'est que les studios qui demanderaient à Nintendo avec plus d'insistance, on aimerait bien Dev Kit Switch 2, au lieu de répondre, soit on vous en donne pas, on vous en donnera un plus tard, pour l'instant, ils disent, faites des jeux sur Switch, de toute façon, ils seront disponibles, ils seront compatibles Switch 2.
D'accord. Il n'y a pas de volonté de Nintendo, en tout cas, de distribuer ces kits pour mieux profiter de des nouvelles capacités de la Switch 2 qui sont quand même vachement plus développées que sur la 1.
C'est ça en fait, c'est une stratégie qui est plutôt étonnante hein, parce que souvent quand tu as une nouvelle console, tu veux
que tout migre dessus.
Tu vas filer le dev kit à tout le monde
pour qu'il y ait de plus en plus d'offres dessus, pour que les gens aient une vraie raison de passer à la nouvelle console parce que certains jeux ils seront uniquement disponibles.
C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que il y a même des studios. Alors, il a pas eu de réponse des gros éditeurs, c'est-à-dire du Ubisoft, du Ubisoft, de 2K, ce genre de personnes. Mm-hmm. Parle pas Digital Foundry, visiblement. Évidemment, tout ce qui est Sony et Xbox, on n'en parle pas.
Oui, oui.
Forcément. Mais par contre, en gros, les gros, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils aient quand même des kits. Typiquement, apparemment, Hello Games. Les gens donc qui ont fait No Man's Sky et qui sont sur un nouveau jeu.
Oui, qui ont déjà, en plus de rajouter du contenu dans No Man's Sky depuis 2016.
Et le transformer en le Star Citizen que tout le monde attend.
Ouais, mais qui lui est sorti et qui lui existe.
Voilà.
Et que les gens s'amusent dessus.
C'est ça.
Rien à voir. Rien à voir, tu vois.
Oui, non, mais.
Et que t'achètes qu'une fois, tu vois, c'est rien à voir.
Oui, c'est marrant parce que quand il est sorti, No Man's Sky, tout le monde pensait que c'était une arnaque pyramidale. Finalement, c'est. Non. Ils sont transformés en remplaçant de l'arnaque pyramidale originelle.
Comme quoi. Le jeu vidéo va des fois te surprendre également.
Exactement.
Tu penses que les gens sont venus juste te vendre du rêve et te prendre ton pognon. Eux, ils t'ont vendu du rêve, pris ton pognon et donné un jeu vachement intéressant des années plus tard.
C'est exactement, c'est ça. Et après, on aurait pu se demander, est-ce que finalement Nintendo se dit, en fait, tout ce qui est pas énorme, gros, machin, on leur file pas le dev kit. Pourtant, on sait qu'il y a des jeux indépendants, notamment un jeu qui s'appelle Chilling by the Fire, par un studio indépendant japonais qui s'appelle Own Game, qui lui a annoncé un jeu full Switch 2.
D'accord.
Pour s'apercevoir en fait que Nintendo il bloque pas complètement l'accès à ses kits pour l'indépendant, mais qu'il y a peut-être une sorte de rétention, ce qui est assez étonnant.
Ils choisissent quoi.
Ouais.
Ils choisissent à qui
En tout cas, ça je sais pas ce que toi tu en penses, mais
de la Switch 2.
On laisse ça aux gens que
les consoles, comment tu dis. Je sais pas ce que c'est.
Non, plutôt en termes de stratégie. Mmh. Quand on se souvient notamment que Nintendo avait basé à mort la politique de distribution de sa Switch 1 sur les indés, en distribuant des kits à tous les indés pour qu'ils soient tous sur l'eShop. Si tu te souviens.
Oui, oui, le but c'était effectivement de saturer le marché et de donner un catalogue énorme.
C'est ça, sur les premiers mois, on ne pouvait plus suivre en fait les versions Switch des grands classiques de indé qui étaient sur PC depuis super longtemps.
Et même des jeux qui sortaient en même temps sur PC, sur Switch, sur PlayStation, sur ce que tu veux en même temps. Effectivement, au point d'avoir complètement les dernières années, les années passant, ouvert complètement le Nintendo eShop, le store, le magasin en ligne, à tout et n'importe quoi.
Oui,
c'était devenu vraiment. C'est toujours la foire à la saucisse.
Ah non, ça a été une poubelle façon Steam, pas de problème.
Complètement ouvert, sans aucune vérification, on va dire, de qualité. De quoi que ce soit.
Non, vraiment à la Steam, c'est bon, l'exe fonctionne, et ben on y va.
Oui, voilà, le logiciel fonctionne, vas-y, t'as le droit, vas-y, t'es vendu sur le store, il n'y a pas de problème.
Il y a eu des trucs assez hallucinants.
Ouais, ça a été, comme tu dis, vraiment leur politique d'avoir le catalogue le plus grand possible sur Switch.
C'est pour ça que je suis assez, enfin, je suis assez étonné.
Oui, ça va complètement à contre-courant de ça.
De ça. Mmh. Après, c'est pas non plus le cassez-vous les indés, on veut pas de vous, mais il y a un truc où c'est plutôt, je sais pas si tu te souviens, à l'époque de l'E3, lorsqu'ils avaient sorti la, je crois que c'était la Xbox One, ils avaient dit, où Microsoft avait dit, bah, en gros, si vous voulez une machine, si vous voulez une machine qui fait tourner vos jeux et que vous n'avez pas envie, et que vous n'avez pas Internet, bah, achetez une 360 et arrêtez de nous emmerder, quoi.
D'accord.
Ce qui avait vachement marché.
Oui, ça avait fait plaisir à tout le monde. Parler aux gens comme ça, ça marche toujours très bien.
Ce qui avait vachement marché. Mais bon, là, on n'en est pas à ce point-là.
Non,
c'est un peu étonnant.
Et comme tu disais, ça nous concerne pour l'instant que les développeurs, c'est très très invisible pour les joueurs.
Oui.
Parce que pour l'instant, oui, faut être clair, le catalogue de la Switch 2, uniquement Switch 2,
rachitique.
Il est extrêmement limité. Ouais.
Je vais pas lancer sur un nombre de jeux, mais en gros, des jeux qui sont identifiables par tous, t'en as peut-être une demi-douzaine.
Alors, ce qu'on va voir arriver au fur et à mesure, c'est des jeux déjà sortis depuis longtemps qui deviennent compatibles avec les capacités technique de la Switch 2,
c'est ça,
les Cyberpunk,
les
Witcher, ce genre de projets, vraiment des jeux qui à la base étaient des mastodontes qui demandaient énormément de puissance. Bon, c'était il y a quelques années maintenant, c'est moins le cas.
Je crois que c'est des Red qui disaient que en gros 75% des ventes de Cyberpunk sur Switch 2 c'était en cartouche.
Oui, en physique, ouais.
Ouais, ce qui est pas courant.
Non, c'est-à-dire, on va en reparler tout à l'heure, mais
ouais, c'est vraiment pas courant.
Ouais. Ah non, ouais.
Et que justement, il y avait un côté aussi, il y a limite des gens qui ont déjà joué à Cyberpunk, qui l'ont retourné et tout, qui l'ont juste pour
avoir le côté un peu particulier de jouer à un jeu aussi. On va dire qui était vraiment un maître étalon de la technique que tu pouvais vraiment faire. Enfin, pousser très très loin avec
le matériel sur PC.
Oui, non, mais les PS4 c'était déjà hors jeu au lancement du jeu.
Ils n'auraient jamais dû sortir sur PS4.
Exactement, ils n'auraient jamais dû promettre que le jeu serait jouable sur PS4.
Tout le monde le sait
là-dessus. Mais oui, enfin, clairement, il y a ça, il y a le fait que certains jeux qui étaient déjà dispo sur Switch, comme tu le disais, qui vont par la rétrocompatibilité être aussi disponibles sur Switch 2, mais peut-être parfois dans les meilleures conditions,
parce
etc.
Parce qu'il y a
aussi une différence de technique dans les consoles.
C'est ça.
Il y a 7 ans d'écart, 8 ?
7 ou 8, ouais. En 2016, fin 2016, début 2017.
Ouais, donc 8 ans d'écart entre les deux consoles. Mmh. Ça n'a pas suivi la même courbe, je dirais, que l'évolution des machines haut de gamme PC. Mais il y a quand même une sacrée différence
entre
les deux.
Bah, le truc, c'est que par exemple, à l'époque où la Switch était sortie, la première Switch en termes de d'hardware, elle était en retard par rapport à d'autres, solutions PC portables que faisait Asus déjà à l'époque, on va dire. Là, en fait, elle est sortie, elle est un poil en dessous.
Elle est un poil en dessous des Steam Deck, Roguelite,
c'est ça. Alors que quand elle était sortie, elle était vraiment à la rue déjà. C'était un gros téléphone, vraiment.
Oui, mais c'est de toute façon, c'était pas le projet de Nintendo. Nintendo avait refusé, c'est ce qu'on avait peut-être déjà parlé, je crois, avait refusé de jouer à la course à l'armement en termes des consoles à un moment.
Ils ont vu qu'avec la GameCube, ils pouvaient plus en fait.
Et que effectivement, les Xbox et surtout les PlayStation allaient beaucoup plus loin là-dessus. Eux se sont concentrés sur ce modèle portable branchable sur un écran, vraiment ce modèle hybride qui est extrêmement intelligent en termes de positionnement.
En tout cas, ils se sont penchés notamment en fait sur l'innovation dans la manière de jouer, que ça soit avec la Wii en 2006,
sur les contrôles complètement
le motion gaming, etc. Ou avec la Switch qui a priori peut-être n'aurait pas été lancée aussitôt si la Wii U s'était pas plantée de façon extraordinaire, tu vois.
Alors que la Wii avait très très bien marché, à contrario, ouais, complètement. Ouais. Mais oui, on était vraiment sur un projet différent en fait, comme tu dis, d'expérience de jeu, bien plus que de performance technique. On n'était pas sur des jeux les plus beaux, on était sur les jeux les plus agréables à jouer, les plus fun. C'était le positionnement de Nintendo. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais enfin, avec
et aussi un côté avec si vous prenez des jeux fait par Nintendo sera family friendly, ce genre de choses.
Aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais.
Là, et puis, forcément, ouais. Que ce soit Microsoft ou Sony, se placer sur des trucs beaucoup plus gritty.
Avec,
plus
avec des Call of Duty, avec des FIFA, avec des, ce genre de jeux comme tête d'affiche, comme tête de proue. Là, on était sur d'autres types de jeux, effectivement, bah, et même les Zelda, même.
Entre guillemets, t'avais un côté. Le wholesome game avant le wholesome game. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Non, mais complètement,
dans
c'est
le,
sûr
dans le feeling,
que
en tout cas.
Dans le feeling wholesome, tu as senti l'influence de la Switch, en tout cas, son, l'objectif de viser aussi le public Switch pendant pas mal de temps, en vrai. PC aussi, hein, sans problème, mais malgré tout, vraiment des jeux complètement adaptés aussi au public identifié.
Oui, on se souvient que ça soit, Céleste et Hades avaient été de gros succès sur Switch.
Bien sûr. Non, complètement, ouais. Mais voilà, vraiment beaucoup plus se baser sur ça, sur l'expérience de jeu, bien plus que voilà, sur le t'en mettre plein les yeux techniquement, c'était pas le projet. Visiblement, la console est déjà beaucoup plus capable de faire ça. Maintenant, bon, j'ai pas l'impression que ce soit non plus dans l'objectif. C'est vrai que c'est difficile de la voir positionnée parce que, comme tu le disais aussi, les jeux développés directement par Nintendo, encore une fois, pour l'instant, il y en a pas tant et
de ce que je comprends, il y en a un qui défonce tout d'un point de vue de vente, qui est le Mario Kart, mais c'est attendu.
Oui.
Je sais pas ce qu'il. Alors après voilà, très compliqué de donner des avis parce qu'on a aucun chiffre de vente, que ce soit pour le Donkey Kong ou pour le Kirby ou pour que ce soit, qui sont des licences qui sont quand même plus mineures.
Hein. Oui, bien sûr. Qui vont ramener moins.
Clairement, on attend un nouveau Mario, nouveau Zelda pour savoir ce qu'il en est. Hein, du côté.
Ils vont être là, les maîtres étalons des ventes. Mais comme tu le disais, elle part très bien, la Switch 2. Elle part vachement bien et peut-être mieux que qu'on pouvait l'envisager. Quand elle est sortie, tu parlais du prix qui était au-delà de ce que les gens envisageaient comme prix acceptable.
Je sais plus si 499, c'est ça?
À peu près, ouais. Et 510 avec le jeu, donc avec une réduction. Pareil pour le prix des jeux. Mmh. Qui annonçait à 80-90 balles. Enfin,
80 balles, ouais.
On était déjà sur des tarifs de la console qui j'avais vu effectivement des commentaires et des articles qui expliquaient que ça leur semblait se positionner trop haut en dehors du marché. Bon, pour l'instant, en tout cas, les ventes ne vont pas dans ce sens-là.
C'est
maintenant.
Ça, j'entendais beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais de toute façon, c'est pas mieux que
la Switch 1.
C'est pas mieux que la Switch 1 pour l'instant. Mmh. Et si tu veux un truc plus costaud, autant aller vers sur Rogali ou sur Steam Deck. Ouais. Le truc, c'est que, ne pas oublier que je pense un truc qui a été sous-estimé, c'est la fidélité à la marque. Ce sur quoi Nintendo peut le plus compter, limite pour moi, peut plus compter que Sony
et
Microsoft. Et la deuxième chose, en fait, c'est le fait que les autres dont on parle, ce sont des PC.
Oui,
que si t'es pas un public PC, normalement, enfin, c'est pas sûr qu'il y aille en fait.
Il y a un écosystème Switch, il y a un écosystème Nintendo, il y a une facilité d'utilisation d'interface. Il y a une, comme tu dis, tu peux relativement facilement laisser un relativement jeune sans aucune crainte de ce qu'il peut y trouver, de comment tu peux gérer le store pour lui laisser accès à certaines choses ou pas. Parce qu'il y a aussi des jeux pour adultes sur Switch, c'est pas le souci. Mais voilà, il y a une interface. Qui te met en confiance aussi. Enfin, tu te dis, ok, c'est bon, ça, tout va bien se passer avec Nintendo, ça va pas.
Oui,
il y aura pas de problème. Il y a la confiance en la marque et en.
Qui identifié, et puis.
Ouais. Et puis le côté, t'es dans des chaussons.
Et puis de manière tout con, la Switch 2, tu la trouves à la Fnac.
Je la trouve à Leclerc quand je fais des courses chez moi.
Ton Steam Deck, t'es bien gentil, mais si tu viens pas sur Steam, tu l'auras jamais.
Oui.
Non, mais.
Il faut le commander. Ça, c'est pas un achat impulsif. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors que, comme je te dis, Leclerc à côté de chez moi où je fais mes courses, il y a la Switch 2 dans les rayons.
Je pense que ça change énormément de choses. C'est-à-dire que peut-être que d'un point de vue produit comparatif, peut-être que justement, c'est pas la meilleure solution en soi pour jouer, pour du jeu. Pour
des joueurs vraiment confirmés, on va dire, des gens qui suivent l'actualité, qui achètent plusieurs jeux, qui jouent à plusieurs jeux dans l'année, etc.
En termes de puissance marketing, il n'y a juste pas photo, quoi.
Bien sûr, leur présence, leur implantation.
Et je pense que c'était peut-être un poil sous-estimé. Ça et le fait que, il n'y a pas de console Microsoft. Enfin, techniquement, il y en a une, mais en vrai, il n'y en a pas.
Bientôt.
Et pareil,
elle va arriver.
Et la PlayStation 6, c'est pas encore, tu vois.
Non, c'est sûr. Même si la PlayStation 5 est quand même un sacré succès commercial. Encore une fois, c'est pas le même public, je pense aussi. Et tu ne joues pas dans les mêmes conditions.
Et sur le secteur des consoles portables, d'un point de vue juste console portable, il n'y a pas de concurrence.
Bah non. En fait, les autres ont abandonné, la PSP, les autres ont abandonné depuis longtemps.
Je pense que c'est ça qui est sous-estimé aussi.
C'est possible aussi.
Je pense que ça a été sous-estimé dans les.
Oui, mais je pense que tu as raison sur le côté implantation, absolument partout. Mmh. Vraiment, ce côté-là. De toute façon, tu veux une Switch 2, tu fais 15 mètres, t'en as une, quoi.
Oui, donc, c'est ça. Je pense que ça
le roguelike, genre le truc, faut aller dans des magasins un peu spécialisés, les commander. Je sais même pas si tu peux le faire à la Fnac.
Bon, déjà, faut que tu saches que ça existe. Attends,
aussi.
Je vais être clair, Steam Deck, roguelike, si t'es pas genre un gamer.
C'est vrai.
C'est pas qui c'est ce vrai. Que c'est. Hein.
Alors qu'une Switch 2, tu vois des pubs à la télé.
Voilà.
Pour les jeux qui sont dedans.
Tu vois les frères Lebrun en train de jouer à ça, voilà.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais complètement, t'as raison.
Ça a l'air bête, mais voilà. Les types qui ont été au JO, je les vois jouer à Switch. Le Nintendo, je connais en plus.
Bah oui, Nintendo, tu peux pas ne pas connaître.
Nintendo, les enfants connaissent, les parents connaissent, les grands-parents connaissent.
Depuis les années 80, les gens connaissent.
Voilà, donc, il y a un truc qui fait. Et surtout, ils ont gardé le côté, la confiance des consommateurs depuis extrêmement longtemps.
Ouais, non, je comprends tout ce mouvement-là. Après, est-ce que, finalement, tout ce qu'on vient de dire était déjà valable pour la Switch 1?
Ouais, mais il sortait d'un bide. Donc c'est pour ça qu'on y avait moins de confiance, tu vois.
Peut-être, mais par rapport au grand public, on était quand même dans la même situation. Ouais. Maintenant, quand tu disais qu'elle se vend, là, on a une échelle par rapport à la Switch 1, comment...
C'est
pas forcément facile à évaluer.
C'est un peu
évaluer,
compliqué, mais en fait, un truc qu'on s'est dit entre nous en antenne depuis un sacré bout de temps, mais que les performances de la Switch 1, c'est pas tant... depuis le début, elle s'est vendue rapidement, parce qu'elle s'est vendue plutôt correctement, et à un moment, ça a explosé.
Ouais.
Parce que les gens étaient chez eux, visiblement, et devaient rester chez eux.
Ça me dit quelque chose, cette histoire. C'était pas il y a quelques années, il n'y a pas eu un truc. Nous sommes en guerre.
Des gens se sont dit, Animal Crossing, pourquoi pas.
C'est vrai que ça a
été. Sauf qu'ils étaient des billions à y avoir les
Et que Nintendo, bizarrement, avait prévu le coup. On peut se demander pourquoi, quand même. Moi, je dis.
Parce qu'on dit la Chine.
Voilà, exactement.
Mais est-ce que le Japon.
Est-ce qu'on peut voir les chiffres de Nintendo et les mettre à côté de ceux de Pfizer? Pardon. Dans cette histoire. Bref.
Non, mais en vrai, le truc qui est hallucinant et qui est inédit dans l'histoire par rapport à la Switch, un truc que même la Wii avait pas su faire, c'est que la vente de Switch a augmenté en continu pendant 8 ans.
Enfin, c'est vrai.
Insensé. C'est-à-dire que même une fois que tout le monde a dit tout le monde a une Switch, et ben le trimestre d'après, il y a plus de gens.
Voilà, ils en achetaient encore plus. Je sais, les gens devaient les jeter.
Non, mais
et en racheter une. Je sais pas comment ça se passait.
C'est fou. Enfin, tu te rends. C'est.
Oui, c'est ça, c'est
cool.
Comme tu disais, c'était complètement inédit dans l'histoire du produit matériel.
C'est ça.
De consommation, de loisirs, en fait. Parce que, c'était complètement inédit.
Et en plus, ce qui est marrant, c'est que les précédents dans ce genre de truc avec des streaks, donc enfin des trimestres consécutifs où tu en vends
de progression
plus.
Ouais.
Bah en gros les précédents c'était Nintendo qui les avait parce que ça soit les PlayStation en général c'est gros coup de boost mais qui était très lié à certains jeux, à sortie de certains jeux.
Oui, et puis
typiquement j'étais à 3 sorts, j'étais à 5 sorts.
Voilà. Il y a ça et puis c'est aussi comme on disait au début des courses à l'armement, c'est-à-dire c'est des consoles qui pètent au moment où elles sortent, elles ont des puissances qui sont jamais vues dans le niveau des consoles et qui finalement ça s'essouffle relativement
après,
vite.
En gros après t'as le Noël de l'année où ça sort et puis après ça se lisse.
D'accord. Ouais, voilà, ça se lisse tant que la PlayStation 6 on sait déjà qu'elle va sortir à un moment et qu'elle va éclater la PlayStation 5.
Et le truc c'est que les précédents c'était uniquement c'était par exemple Game Boy qui arrivait.
Ouais. Ouais,
qui arrivait pendant un certain temps, mais globalement
ça c'est une console, tu peux en parler à des grands-parents, ils sont au courant que ça existe.
Voilà, c'est ça.
Officiellement, mon père il l'avait acheté pour nous. Officiellement. Bon, on l'a vu, hein. De temps en temps on l'a vu. Quand il y jouait pas, de temps en temps on l'a vu.
Oui, tu l'as vu. dans ses mains.
Voilà, quand il y jouait. À peu près ça. Mais c'était la console que officiellement les parents ils achetaient pour les enfants.
Mais c'est pareil. Moi j'ai acheté une Switch pour mon héritier évidemment.
Mais toi t'es un escroc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est marqué dessus. C'est comme ça.
Une fois il y a joué, je l'ai empêché de manger pendant 3 jours. Parce que ça papa, pas, d'accord ?
Ah là là, c'est con, t'avais jusqu'ici dans cette émission, t'avais encore un peu de crédibilité. Bon bah voilà, c'est fini. C'est dommage d'avoir attendu aussi longtemps, mais on sait comme ça.
Écoute, je pense, en tout cas voilà, on verra comment ça s'oriente le positionnement de la Switch 2
et le rythme des ventes.
Le rythme des ventes et comment ça se positionne par rapport à des indés qui vont pouvoir proposer des jeux exclus Switch 2 en profitant des capacités de la Switch 2.
Ce qui n'est pas le cas de Silksong, par exemple, qui vient de sortir et qui a juste absolument pété le Nintendo eShop, qui était inaccessible, qui a pété Steam, qui était inaccessible, parce que les gens voulaient acheter le jeu.
Ah oui, d'accord.
Oui, cet après-midi, là, il est sorti aujourd'hui à 16h. Cet après-midi, tu pouvais pas accéder à Steam, tu pouvais pas accéder au Nintendo eShop, tu pouvais pas accéder. Enfin bref, ils ont pété 4 ou 5 stores.
Je pense que le Game Pass, ça devait être pareil, non ?
Oui, fallait passer par un truc. Enfin bref, c'est un truc qui marchait pas de base.
Parce qu'en fait, il inclut dans le Game Pass. Je pense que c'est la merde aussi.
Le jeu qui est sorti, mais effectivement, lui, va proposer effectivement la rétrocompatibilité vers la Switch 2 plus tard.
C'est ça. Donc après. C'est pas un jeu qui, en soi, semble avoir besoin des capacités de la Switch 2.
Non.
Voilà.
Non. Il va très bien marcher sur Switch.
Voilà. Donc,
techniquement, il n'a pas besoin.
Sachant que j'ai l'impression que c'est le même moteur, donc a priori, ça devrait bien se passer.
Pourquoi s'emmerder ?
Voilà.
C'est quand même dommage.
Toutes ces plateformes qui se crashent parce qu'il y a trop de gens qui viennent, ça promet pour GTA 6.
Oui.
Ça promet.
Mais rassure-toi, le jeu ne sera pas disponible sur PC à la sortie.
Oui, c'est
en tout cas, pour l'instant, on n'a aucune info. Il n'y a rien qui a été annoncé, rien validé, quoi que ce soit. Pour l'instant, ils veulent pas. Enfin, moi, j'ai pas vu quelque part qui disait le jeu sera pas dispo sur PC à la sortie.
Et ce qui est bien avec Rockstar, c'est que en gros, ils feront ce qu'ils veulent et tout le monde dira oui.
Oui, monsieur. C'est 100 euros. Oui, monsieur.
Donne le jeu. Voilà. Pardon, vends le jeu.
Ouais, c'est ça. Faut acheter une PS5 avec. Pas de problème.
Une PS6, je prends. Pas de problème. Ah ouais, non mais. Bref.
Enfin, après, il y a des gens, c'est le jeu qu'ils vont acheter. Quand je dis le, c'est au singulier. Et du coup, la console, elle servira qu'à ça. Donc au final, c'est un investissement qui peut se comprendre, qui n'est pas le même personnellement, je joue à énormément de jeux différents, donc ça n'a pas du tout le même sens, en fait.
Voilà, et puis je pense que de toute façon, le deal qui sera fait avec le grand gagnant,
a priori, ce sera Sony.
Bon, hein, parce que vu l'implantation des Xbox Series...
Et puis même historiquement.
Déjà, qui a une Xbox Series, dénoncez-vous.
On vous cherche, on vous veut pas de mal, hein. On sait pas qui vous, on vous a pas trouvé, c'est tout.
Vous avez visiblement besoin d'aide.
Aussi, oui. Et visiblement, vous avez acheté une Switch 2. Ça, on est au courant.
Bah, vaut mieux. Mais en même temps, je vous comprends. Je vous comprends. Donc voilà. Effectivement, en tout cas, on suivra pour la suite de la Switch 2. On en reparlera plus tard, mais je voulais aborder le sujet.
Ouais. Non, mais c'est vachement intéressant parce que c'était avant qu'elle sorte un des moments importants de l'année au niveau de l'industrie du jeu vidéo. Que c'était un des moments importants attendus qui allait peut-être avoir un vrai impact sur d'autres trucs, sur les sorties de jeux, sur la création de jeux, tout simplement.
Oui.
Si la console ne se vendait pas, peut-être que les studios allaient simplement arrêter de faire des jeux pour ou quoi. Enfin, ça pouvait avoir un vrai impact sur beaucoup de choses.
Et puis, Nintendo, c'est un écosystème particulier.
Aussi.
C'est un type de jeu particulier, des jeux qui ne marcheraient que sur Switch.
On en avait parlé, effectivement, quand on avait parlé des rapports Newzoo sur les jeux. Nintendo, la liste des jeux les plus vendus dessus, ça n'avait rien à voir avec les PC, Xbox et PlayStation confondus.
On était sur deux
mondes complètement différents.
Sortir un Call of sur Switch 2, si tu veux, mais pourquoi en fait ?
Pourquoi pas, j'ai envie de dire aussi.
Mais si tu veux, vas-y. Mais honnêtement, c'est pas là-dessus que tu gagnes un argent.
Et il sera pas dans les. Enfin, il sera pas. Je sais pas s'il serait pas dans les meilleures ventes sur Switch, mais.
Possiblement.
Mais il sera derrière un Zelda, il sera derrière le Zelda qui vont sortir, il sera derrière le Mario qui vont sortir, parce qu'on sait très bien qu'ils vont en sortir.
Bien sûr.
Même si pour l'instant, on n'a pas. Non, mais beaucoup plus d'infos, mais bref,
ça va.
On sait très bien comment ça fonctionne.
Ils impriment assez d'argent, là, ça va.
Oui.
Pour l'instant, ils sont bien, en tout cas. Et il n'y a eu aucune annonce et tout. Je pense qu'ils sont bien, ils sont tranquilles.
Ils n'ont pas besoin d'annonce. Ouais. Et comme on l'avait dit aussi dans les différentes émissions où on parlait des nombreux licenciements qu'il y a eu dans l'industrie, Nintendo, en tout cas Nintendo Japon,
oui.
C'est un des rares ensembles, oui. Parce qu'il y a plusieurs studios, plusieurs
Nintendo
équipes,
America,
etc.
Nintendo of America, ça a été autre chose.
Hein. Ouais, Nintendo of America, c'est autre chose, mais c'était moins de développement de jeux historiques, comme de licences historiques.
Nintendo of America fait pas de dev quasiment.
Par exemple,
donc, ouais. Ils font que du. Ils font que
du suivi ou l'exploitation.
Ils font que de l'exploitation.
Alors qu'effectivement, si tu vas dans les équipes au Japon, c'est pas pour rien que les noms des développeurs, en fait, on les connaît. Mm-hmm. Parce que c'est les mêmes depuis 40 ans, en vrai. Enfin, les mecs, en fait, ils les gardent.
Oui.
Les talents, ils les conservent. Ils font en sorte que les gens aient envie de rester, ou en tout cas, ou ils les attachent dans la cave. Je sais pas comment ils font, mais
oui, voilà.
En attendant, les mecs sont toujours là et continuent à faire les jeux. Donc, ils ont une vraie maîtrise du sujet. Il y a pas de, ils sont pas dans des modes de crainte de si le jeu marche pas, on se fait virer, etc. Enfin, on n'est pas dans les mêmes dynamiques.
En tout cas, ils sont vraiment sur une politique globale de développement de jeux vidéo qui est très différente.
Ouais.
Je dis pas qu'elle est sans pression, parce que je pense
et qu'elle est mieux aussi pour sur le truc. Bah oui, parce que marché du travail au Japon, voilà quoi.
Voilà, parce que clairement, je pense que quand la Wii U s'est plantée, je pense que ça a dû être une panique assez conséquente, parce que la Switch n'était pas censée sortir aussitôt. Hein.
C'est vrai.
Et je pense que quand même, il y a eu aussi, même si ça, en gros là, c'est cool, ça se passe bien, mais il y avait quand même de sacrés enjeux en termes de communication sur la sortie de la Switch 2.
Mmh.
Et une fois de plus, hein, les réseaux sociaux, c'est pas la vie. Si tu écoutes les réseaux sociaux, la Switch 2, personne n'aurait acheté.
Et comme tu l'as dit au début, ils la vendent aujourd'hui avec beaucoup moins de marge. C'est-à-dire qu'ils ne l'auraient pas vendu, les coûts de production leur auraient fait relativement mal. Ils ont un trésor de guerre, tu peux aller faire la guerre avec. Je veux dire, ils ont des milliards et des milliards de réserves, hein, c'est pas un problème. C'est littéralement.
Ils sont beaucoup plus. C'est une boîte qui est beaucoup plus prudente sur leur fonds propres par rapport à leurs concurrents, tout cas constructeurs. Mais effectivement, ils ont un sacré trésor de guerre qui leur permet. Mais justement, ils sont très très prudents par rapport à ça. Et je pense que quand même, même leur politique, ils ont pris quand même beaucoup de risques en disant nos jeux ils sont très chers, notre console sera très chère.
Mmh.
J'espère que ça ira.
C'est ça. Les mecs sont arrivés en fait. Ah ouais, nous on est cher, pas
alors,
de problème.
Le truc, c'est que,
watch me, regarde, vas-y, regarde-moi
la
récupérer
phrase de
la thune.
Mon intervention était est-ce que t'as 500 balles ? Parce que je continue à penser que c'est méga cher.
Ah, c'est une vraie question.
C'est méga cher, mais c'est méga cher pour moi. Visiblement, par rapport au marché, c'est le bon prix.
Ouais, ou
pour l'instant,
ou les gens en tout cas, ouais, effectivement, ont considéré que c'était un investissement qui valait le coup. C'est toujours un peu ce champ de calcul. C'est moins cher qu'une PlayStation 5.
Ouais. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens, en tout cas dans les pays occidentaux, il y avait des offres de je reprends ta Switch
ouais.
Pour acheter la Switch 2 et du coup tu l'as à un prix moindre, tu vois.
D'accord.
C'est des offres de reprise.
J'avais pas du tout suivi ce genre de choses, mais.
Je parle des Micromania, mais un peu partout, tu vois.
Oui, oui,
disaient, voilà, en gros, on fait une offre où on la reprend.
Oui, ou tout simplement vendre ta Switch sur eBay pour avoir un minimum, pour que la Switch 2 te revienne moins cher au final en calcul.
Voilà.
C'est possible.
Vu qu'il y a full rétrocompatibilité, sauf pour des trucs matériels type les trucs où tu prenais des cartons pour.
Oui, pour faire une sorte de comment pas de vrai casque de réalité virtuelle ou quoi.
Enfin, à part certains trucs comme ça, globalement, t'as une full compatibilité pour tous les jeux qui ne reposent pas sur du matériel externe. Donc,
tout spécifique à la Switch 2, mais du coup.
Voilà, donc t'étais là-dessus. Tu te disais, en fait, je fais qu'un simple remplacement. Et puis j'y vais quoi. Un peu comme tu changes ton PC, tu vois.
Ouais, je comprends la logique qui va avec. Et effectivement, tu fais ça tous les 8 ans. Est-ce que c'est si déconnant que ça de mettre 500 balles tous les 8 ans?
Sachant qu'en plus, voilà, t'as mis 400 balles, t'as mis 300-400 balles il y a 8 ans.
Mm-hmm.
Tu mets 500.
T'as mis 80 dans chaque jeu après, pendant le temps, enfin, tous les jeux Nintendo. Les jeux indés qui sont vendus à 10-15 balles.
C'est vrai que les jeux Nintendo, il y a un autre truc aussi, c'est que je sais pas ce qu'il en est. Pour le coup, je connais moins sur PlayStation et sur Xbox, mais les jeux Nintendo ne décotent jamais. C'est-à-dire qu'ils sont, à partir du moment où ils sont vendus à un prix, sera ce prix-là.
C'est moins le cas, je pense, pour les jeux Sony. Les jeux first party Sony, les studios qui appartiennent à Sony, qui sont là spécifiquement pour alimenter le catalogue de la PlayStation, à l'origine en tout cas, même si le projet a changé, puisque maintenant les jeux vont beaucoup plus être disponibles sur PC. Mais c'est vrai que ouais, il y avait moins cette il y avait déjà un peu plus cette culture de des soldes, des baisses de prix, des côtés saisonniers en fait. Comme les FIFA par exemple, tous ans, t'as le nouveau, donc celui d'après, enfin celui d'avant, bah forcément, beaucoup moins de personnes en veulent.
Nintendo, c'était de la chance, t'as 10%, quoi.
Ouais.
Pendant 15 jours, il faut être là.
Mais des jeux Nintendo, effectivement, et ce qui est pas.
Les autres jeux, oui,
peut-être. Voilà, ce qui est pas généralisable à l'eShop en général, où il y a de temps en temps des soldes également, mais pas dans les mêmes mesures. De ce que j'ai vu, en tout cas, toi qui as aussi un peu déjà acheté dessus, j'imagine.
Oui.
C'est un peu moins fréquent.
Voilà, mais ça. Alci, une fois acheté. Ouais. Même, attends, la seule préco de ma vie, c'était sur.
Sors d'ici. Tu as préco des jeux, sors d'ici.
Non, un jeu. Ça va, il était pas mauvais, mais c'est parce que j'étais accro, vraiment. J'en pouvais plus.
À ce point-là.
Un jeu Zelda.
Et oui, bien évidemment.
Un jeu Zelda, évidemment. Mais je vois, par exemple, sur la. Ouais, sur. Je vois, par exemple, Breath of the Wild, actuellement, si tu vas sur l'eShop, il est à 70 balles.
Ok.
Breath of the Wild qui est sorti en 2017.
Avec la console. Enfin, quasiment.
Oh, quasiment.
À peu de choses près.
Ouais, donc tu fais.
Oui. Non, mais. Oui, Nintendo a fait ce choix-là,
zéro.
En tout cas.
Des codes, c'est non. Donc, voilà.
C'est pas le projet, c'est pas leur méthode. Et encore une fois.
Oui, mais ça marche pour eux, donc.
Bah, c'est ça, c'est ce qu'on a dit, c'est un écosystème qui fonctionne, je pense, de façon un petit peu différente. Et effectivement,
oui,
c'est pas quelque chose qu'on peut comparer, notamment quand on voit. Je reviens sur Six Song, parce que c'est quand même un marqueur aussi de l'année.
Qui est à 20 balles, donc.
Qui est à 20 balles, qui est donc 5-2 euros que plus cher que leur premier jeu, Hollow Knight, qui est sorti en 2017.
Oui.
2016 2017, je sais plus.
2016, ouais.
2016, par là, enfin, il y a quand même un moment. Et qui, effectivement, est. Pas cher par rapport à l'attente qu'il a suscité.
Oui, c'est-à-dire que personne, en gros, il serait sorti à 35, voire 40 balles, tout le monde aurait dit OK.
Ouais, par rapport à l'attente, par rapport au contenu, par rapport à ce qu'on sait de la qualité, jusqu'ici en tout cas, il y a assez peu de doutes sur la qualité du jeu. Non, clairement, ouais. Bon, après, derrière, effectivement, il y a eu des discussions sur... Est-ce que le prix était bon ?
Pour le coup, je trouve ça intéressant de.
Les discussions sont intéressantes.
Si tu veux partir là-dessus, alors.
Ça va être juste en termes de timing, mais il y a des discussions intéressantes à faire.
Je sais que tu avais prévu un truc et je pense qu'on n'a pas le temps.
Non, absolument pas.
Du coup, moi, ça me va bien de parler deux secondes de.
De Six Song ?
De Six Song. Alors,
si tu veux.
On connaît rien du. Alors, soyons clairs, que ce soit toi ou moi, Hollow Knight.
Moi j'ai joué, mais
j'ai pas persévéré. J'ai pas aimé, c'est pas mon compte de jeu. Moi ce que je trouve intéressant, c'est l'impact de Hollow Knight d'un point de vue médiatique et.
Oui. Et même de l'industrie, les autres indés. Alors effectivement, on en a un petit peu parlé de. Je pense qu'il y a vraiment eu une auto-alimentation de cette hype. Autour de Silksong, donc annoncé en 2019 pour la première fois. Depuis. Plus ou moins annoncé, il y a Xbox à l'époque, je crois que c'est en 2020 ou 2021, qui avait dit le jeu il sort bientôt.
En tout cas, je sais que la première fois qu'on avait vu des images, c'était sur Nintendo Direct.
C'est vrai.
Et c'est pour ça que pendant
6 ans.
Une trentaine de Nintendo Direct, c'était vraiment
à chaque fois
Chaque fois qu'il y avait Nintendo Direct des images de Silksong, s'il vous plaît.
C'est ça. Les gens attendaient en fait de revoir d'en voir plus. Mais effectivement, il y a eu je pense une vraie auto-alimentation de ça déjà parce que le jeu de base Hollow Knight, c'est relativement bien vendu. 13 millions, je crois que c'est à peu près ce qui est estimé aujourd'hui.
C'est un carton.
C'est un carton monstrueux, 13 millions de ventes à 15 balles. Bon, bah les 3-4 personnes, je crois qu'aujourd'hui, sans éditeur, je crois qu'en fait, ils ont lancé leur projet via un Kickstarter qui avait rapporté
30 000 dollars,
mais c'est ce qu'ils avaient demandé. Donc pour sortir le jeu, et derrière, effectivement, ils en ont vendu, il y a un peu comme la Switch, enfin finalement, il y a eu une vraie, tu vois, côté, on en a vendu pendant tout le temps. C'est pas compliqué, on en a juste vendu tout le temps. Il n'y a pas eu un gros pic au départ, et puis ensuite, non, c'est vraiment, ils en ont vraiment vendu tout le temps.
Et, c'est limite sur Steam, c'est compliqué de trouver un compte où il n'y a pas le Knight dessus, quoi.
Pas loin, ouais, en vrai.
En gros, pour moi, c'est les jeux où, tu sais, comme Portal.
Ouais, il y a un peu de ça.
C'est des jeux où,
tu sais,
il y a un
Half-Life 2, enfin, tu vois, des trucs comme ça.
Il y a des comptes où, non, mais c'est dessus.
C'est normal, c'est normal que tout le monde l'ait. Mais du coup, oui, il y a eu vraiment cette auto-alimentation par des jeux, par des mèmes, par des blagues, par effectivement cette récurrence de l'appel et de la demande. Il y a eu de nouvelles de Silksong à chaque conférences, quel que soit, beaucoup dans les Nintendo Direct, mais pas que.
Et l'absence totale de communication de la Team Cherry.
Pendant un temps. Il y a eu un temps, effectivement. Alors, ils communiquaient plus ou moins tout début, donc 2019, premières images. Je crois que 2020, 2021, il y a eu un premier le jeu va sortir bientôt de la part de Xbox. Team Cherry qui dit ouais, peut-être. Enfin, ou un truc genre, voilà. on contredit pas. Et puis après, silence radio pendant quasiment 2 ans et demi.
Quasiment 5 ans.
Non, parce qu'ils en ont reparlé ensuite, genre vers 2023-2024. Jusqu'à en fait en remontrer un petit peu là, puis ils ont fait monter la sauce.
Oui, je me souviens que pendant un E3 on a eu des images,
ouais, voilà, mais bref, tu as raison sur le fait que tu as raison que effectivement sur le fait qu'il y a eu un vrai silence radio pendant pas mal de temps. Expliqué dans une grosse interview auprès de Jason Schreier, donc journaliste spécialisé jeux vidéo de Bloomberg, qui avait interviewé donc la Team Cherry, qui était 3 personnes à l'époque. Aujourd'hui, ils sont 4, je crois. Mm-hmm. Sans compter le musicien, si je dis pas de bêtises.
Oui, et un musique, c'est externe.
Ouais, mais c'est le même sur les deux, d'ailleurs. Et derrière, voilà, ils avaient expliqué que, bah non, en fait, on bossait sur le jeu. Laissez-nous tranquilles, en gros, quoi. On n'avait rien à dire, donc on n'a rien dit.
En gros,
c'est une version qui peut être discutée sur la communication.
Et surtout, enfin, auparavant, ils avaient fait un jeu pendant. Ils l'ont fait pendant 4 ans, je crois.
Ils ont mis 3-4 ans.
Ouais, 3-4 ans, c'est ça. Et entre guillemets, ils vivaient sur leur denier. Et donc, voilà. Et là, en gros, ils ont plus d'argent que n'importe quel développeur indé peut jamais espérer.
Ouh, je pense que faut voir comment ça se passe au niveau du gars de Balatro, mais bref, mais oui.
Oui, non, mais en gros.
Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est des gens, ils sont complètement.
Ça veut dire que.
En dehors du besoin.
Ce qu'on a à faire, c'est si on veut. Et déjà, ce qui est bien, c'est que ce soit pas perdu en mode, viens, on va faire un truc de ouf.
On va changer le scope.
Ils se sont pas transformés en Romero en 2x3 mouvements.
Ils ont pas fait grandir le studio en recrutant dans tous les sens pour faire un truc vraiment immense. Ils sont restés sur leur projet et effectivement, donc là, voilà, le jeu est sorti. Aujourd'hui, je pense que clairement, voilà, cette hype, cette surévaluation du hype, etc. Enfin, le jeu le plus wishlisté de Steam, oui. Pas compliqué, au moment de sa sortie. Oui, je crois que c'est à peu près ça. Oui. Même si les chiffres, on n'a jamais vraiment des chiffres de nombre de wishlist. Effectivement, c'est ce qui se dit, qu'il n'y a jamais eu un jeu avec plus de wishlist sur Steam. Et derrière, effectivement, il y a eu des conséquences. Les premières conséquences étant que quand ils ont annoncé la date de sortie du jeu il y a 3 semaines.
Attends, avant. Quand ils ont annoncé qu'ils feraient un showcase à la Gamescom,
oui.
Tu as l'intégralité du monde du jeu vidéo professionnel qui a sévi à serrer les fesses d'un coup.
Oui.
À base de.
Quand est-ce qu'on sort le jeu?
Pitié, pas de Shadow Drops.
Voilà. Ne sortez pas le jeu pendant la Gamescom au moment de votre conférence parce qu'on n'est pas prêt.
Ouais.
Ça aurait été le meilleur moment parce que personne n'a sorti de jeu pendant la Gamescom.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est. Autant que ça soit la presse, les influenceurs ou les autres qui étaient en train de faire la promo de leur jeu propre, personne n'était prêt. Et tout le monde disait « Pitié, faites pas ça !» Je pense que c'était là. T'avais un truc, tu sentais dans tous les commentaires la peur de ça.
Alors, ils avaient déjà plus ou moins laissé entendre que ça allait pas tarder parce qu'effectivement, à la présentation de la console de Xbox Roguelite,
C'était en juin.
Je crois que c'est ça, ouais.
Oui, c'était pendant le
Summer Game Fest.
C'était pendant le Summer Game Fest.
Et du coup, ils avaient montré des images de Silksong en disant le jeu sera disponible.
Day One.
Sur la console, quand elle sortira. Et la console sortira avant Noël.
Oui.
C'est déjà comme ça qu'ils avaient prévu leur truc.
Donc on savait que c'était 2025.
On savait que c'était relativement bientôt, mais on n'avait pas de plus de précision.
C'était tout le discours du truc Xbox dire tous les jeux qui arrivent là, ils sortent sur l'année fiscale.
Oui. Déjà, et en direct sur le Game Pass.
Oui.
Parce que leur projet, c'était de mettre en avant le Game Pass.
Oui, justement, ils voulaient comme on l'avait dit
pendant l'émission dont on a parlé spécifiquement du Game Pass il y a 2 semaines, 3 semaines. Donc voilà. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, bon, il me reste 2 minutes, il y a eu un certain nombre d'indés qui ont déclaré décaler la sortie de leur jeu pour éviter de sortir la même semaine que le jeu. Et il y a eu aussi des gens qui ont discuté de la... du bien fondé du prix de vente par rapport au marché.
Oui.
C'est une longue discussion que j'aimerais avoir, mais pas maintenant, parce que c'est juste absolument pas le temps, parce qu'effectivement, tu as des pour et des contre sur là-dessus, tu as même des indés qui ont dit c'est n'importe quoi de leur mettre cette pression-là, en tout cas de leur mettre cette responsabilité de leur jeu vaut tant, ça ne servira pas de mettre étalon à toute l'industrie des jeux indés pour dire que, ok, maintenant un jeu indé, ça doit valoir tant. Ou pas plus, parce que Silksong valait tant. C'est une discussion qui se...
Ça n'a pas de sens.
Non, mais c'est une discussion qui est malgré tout intéressante sur le fonctionnement de l'industrie et comment les gens, en fait, calculent leur prix, comment est-ce qu'ils décident de leur prix de vente. Mais malgré tout, effectivement, comme tu dis, je pense ce qui n'a pas de sens, c'est que Silksong est complètement en dehors de ces considérations. C'est un ovni. C'est un ovni indé, ce qui est plus rare qu'un GTA, par exemple, qui sera un ovni dans le monde du jeu vidéo, mais même du côté des AAA, des studios, donc ont mis plusieurs centaines de millions de dollars dans le développement de leur jeu. Mais il sera déjà un ovni. Donc tu peux pas t'en servir, en fait, comme exemple ou comme calcul
moi,
de.
Moi, je fais un parallèle, justement, entre Silksong et GTA 6, dans le sens où Silksong, ils auraient pu décider de donner leur jeu.
Oui, ils n'avaient pas besoin de
pognon. Qui rentraient dans leurs frais. Silksong aurait décidé de vendre leur jeu 50 balles, on aurait dit, vous êtes des bâtards, mais on va quand même le prendre, votre
jeu. C'est vrai, ça aurait marché aussi.
Et GTA 6, alors, bon, ils auraient pu se permettre de le filer gratuit.
Quoique. Ils vendent encore pas mal de GTA 5. Hein. Quoique. Et 2013, je veux
dire. Vraiment, ouais. Mais il y a un côté où ils le vendent à 20 balles, ou ils le vendent à 100 balles. Les gens le prendront quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Complètement. Complètement.
Et là-dessus, ils sont sur une autre sphère par rapport à n'importe quel autre.
Et donc, c'est difficile de les comparer.
Entre guillemets, hors marché.
Bien sûr. Mais ça, je suis complètement d'accord. Et c'est également, en fait, l'argument et la logique derrière, avec d'autres arguments aussi, de quelqu'un que j'aime bien suivre, Chris Zukowski, qui fait un blog qui s'appelle How to Market a Game. Donc, c'est vraiment un mec qui bosse dans le marketing. Il est au crédit, au générique d'une vingtaine de jeux. Et pas des moindres, hein, certains qui sont sortis relativement récemment et qui ont très bien marché, en tant que consultant marketing ou PR ou genre de truc, parce que c'est quelqu'un qui est quand même relativement reconnu dans ses connaissances du fonctionnement de l'industrie pour ses conseils et ses analyses finalement du fonctionnement du marché, notamment de Steam ou ce genre de choses. Bref, ce gars-là donc fait son propre blog, il fait aussi des interventions à la GDC, à la Games Developer Conference, pour parler un peu de comment est-ce qu'il faut faire du marketing autour de ton produit, de ton jeu. Et il a fait tout un article, évidemment aujourd'hui, parce qu'il n'est pas complètement con, évidemment qu'il voulait aussi profiter de ça. Il a fait un article aujourd'hui en disant est-ce qu'on doit avoir peur effectivement de la sortie de Silksong aujourd'hui ? Est-ce que les indés avaient raison de décaler leur sortie pour pas sortir la même semaine que Silksong. Et sa conclusion, parce que c'est le moment de conclure pour moi, globalement, c'est non. C'était pas... parce qu'encore une fois, il est hors du temps par rapport à ça, il est hors du truc. Et les gens ne consomment pas les jeux vidéo, les gens achètent des jeux sans forcément y jouer juste après. Oui. Il avait fait beaucoup d'analyses là-dessus sur le fait que les gens achètent des jeux sans forcément y jouer tout de suite. La plus grande majorité des utilisateurs de Steam, par exemple, achètent des jeux sans y jouer.
Voilà, la plupart ont un backlog stupide.
Donc on est vraiment sur des fonctionnements différents, et lui, en fait, fait le parallèle avec les marketeurs du cinéma, qui fonctionnaient avec un certain nombre de salles limitées physiquement, et de disponibilité des salles dans les territoires, et que du coup, tu devais faire ton marketing en fait en ciblant des trucs, et également par rapport à une disponibilité limitée finalement des écrans sur lesquels tu vas pouvoir diffuser ton truc. Non, et effectivement, il pense que les gens qui se disent OK, je vais pas sortir en même temps qu'un autre gros truc, parce que les gens vont pas acheter mon jeu ou vont pas jouer à mon jeu parce qu'ils ont déjà l'autre. Pour lui, c'est une erreur parce que c'est pas comme ça que les gens consomment.
Je comprends, même si je suis pas. Je vais trop court
pour pouvoir développer les arguments qu'il utilise. Mais je pense que la discussion est intéressante.
Je pense qu'on en reparlera une autre fois. Hein,
je pense que ça vaut le coup.
Et je pense que pour le coup, ce sera bien d'avoir.
Ça sera intéressant.
Ça sera bien l'abord de Bettina là-dessus.
Absolument. Ça m'intéresse beaucoup.
Notamment sur tout ce qui est communication et date de sortie.
Complètement.
Parce que je pense aussi que tu peux, même s'il dit ça, tu peux pas empêcher un certain effet de vampirisation.
Tu vas avoir un effet de vampirisation, mais lui, son argument, c'est que la vampirisation, par exemple, du marketing des réseaux sociaux et des influenceurs, c'est avant. La réussite de ta sortie, c'est pas le jour de la sortie, c'est tout ce que t'as fait avant. Ta sortie, tu la prépares avant. Si tu sors ton jeu sur Steam comme ça, sans avoir fait comme avant, tu vas te planter quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de jeux qu'il y a en face ou pas.
Ouais, enfin,
moi, son argument, il est là et je peux le comprendre également.
Hollow Knight est un contre-exemple, mais
justement,
c'est assez rigolo, c'est pour ça qu'il ne faut pas se
baser sur ça et sur sa présence et sur son existence pour changer ta façon de faire parce que c'est un ovni.
Et
que du coup, il sort des règles.
Ouais.
Voilà, c'est une discussion qui est vachement intéressante, mais qui est pas le moment.
Enfin bref, il y a effectivement, je vois qu'on toque à la porte, va falloir qu'on nous vire du studio.
Ouais, je crois que c'est surtout toi qu'on veut virer du studio, mais...
Non, toi, parce que je te rappelle que c'est toi qui es aux manettes, donc tant que tu dégages pas, et ben on peut pas passer à l'émission d'après.
Merde. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine avec Bettina cette fois-ci. Merci Romain.
Merci Xavier.
Merci Presse F5 pour l'hébergement du podcast. Merci Radio Canut pour nous laisser rentrer dans le studio et nous virer du studio, mais pas
beaucoup trop tard. Voilà.
Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et pour les Lyonnais qui voudraient s'amuser avec nous, on se retrouve mardi au Troquet Taquin pour Sex Nerd et Troquet Roll.
Du quiz, du blind test.
Voilà. 20h30. Ciao.
Des bisous.